Ils vont se multiplier.
Chut, chut, chut. Venez, on va se mettre en retard pour l'émission.
Ne fais pas de bruit, t'as pas le dos.
Une all to vous.
En 25 ans d'émission, j'en ai jamais raté une. J'ai jamais raté un rendez-vous avec mes auditeurs.
Say it again.
Une all to vous. Alors, go away now.
Allez, action.
Action, pourquoi faire?
Quand mai 68 remonte à la surface, 50 ans plus tard, et cette question du choix, de l'engagement, d'une vie, et plus largement de la société, des femmes et un homme, dans deux documents précieux sur notre affiche ce matin. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à toutes et à tous.
Sa société idéale, il l'a peut-être bien créée dans son magasin de bricolage, un lieu comme une continuité de sa vision politique et sociale. Bonjour Jean Bijaoui.
Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour.
Héros, malgré vous, de ce film 68, Mon père et les clous, filmé par votre fils. Bonjour Samuel Bijaoui.
Bonjour Christine.
Malgré lui, parce que l'homme, votre père, est discret et un peu lent à répondre.
Oui.
Et en filmant son magasin, vous livrez un document sur cet ancien militant de la gauche prolétarienne, mais aussi sur la disparition des petits commerces. Mai 68, une histoire racontée presque exclusivement par des hommes, et pourtant cette période a davantage marqué et changé la vie des femmes. Bonjour Georges Amat.
Bonjour.
Un homme pour raconter et filmer ses femmes 50 ans plus tard dans un film Fille de mai, ces héroïnes, nos héroïnes, qui ont écrit les prémices d'une autre révolution, le féminisme. Parmi elles, nous avons choisi, bonjour Geneviève Fraisse.
Bonjour.
Étudiante en 68, désormais philosophe et historienne de la pensée féministe. À côté de vos deux films cette semaine, d'autres propositions de cinéma entre Alisté et Coming Out. Bricomonge, c'était un magasin de bricolage, aujourd'hui disparu, une quincaillerie parisienne tenue par Jean Bijaoui, que vous, son fils Samuel, avez commencé à filmer en 2006. Ambiance.
Votre porte, c'est César au Bretois. Vous levez la main vers le haut, vous dites César au Bretois trois fois, et elle s'ouvre.
Des tubes, bien sûr, on n'a plus.
C'est vrai,
trop, oui, 14 ans en 40 watts et en 27 en 40, il n'y en a pas. Et en 60, il n'y a pas. Bonjour, monsieur.
Bonjour, madame. Je voudrais un bout de médium, s'il vous plaît. Oui, 4 centimètres. J'ai vérifié, il en a.
Oui. Bon. Médium de quelle épaisseur?
Alors, 4 centimètres.
Non, c'est...
Médium de 40, oui.
Voilà, 40.
Ah, oui, oui.
34 centimètres sur 55.
Merci.
C'est le capitaine, lui, vous savez.
D'accord. Non, non, monsieur.
Elle est arrivée, elle est repartie.
Elle
vous
repartie.
L'avez ratée.
Ça vient.
Oui,
de chance,
c'est
hein.
Comme bien des
oui,
choses.
Oui, comme exactement. Mais c'est pas grave. Parce que vous en avez recommandé qu'une. Ah ben ouais, on va pas charger en stock, hein. Hein, oui, on a un petit commerce.
C'est un peu lourd.
Oui, oui, c'est vrai.
Pourquoi on ne pose pas un canapé ici au travail pour la petite analyse?
Ouais.
Là, vous serez un beau petit canapé.
Ouais.
C'est ça, hein, de toute façon. C'est vrai. Il nous faut un canapé quand même. Il faut qu'on mette un canapé ici. Ça serait génial. Moi, je voudrais bien voir ça.
On est très bien servis. Ils sont gentils, serviables, bien. Et le matériel surtout, c'était très très bien. Et si on n'est pas content, ils nous remboursent. On se rance toujours. C'est pas vrai?
Samuel Bijaoui, fils de Jean, on va pas dire patron, mais responsable de ce magasin de bricolage, que vous filmez dès 2006. Dans quelle intention vous filmez ce magasin?
Bah, je filmais pas tant lui qui parle pas trop et puis qui est plutôt bougon quoi en fait,
ouais.
Mais c'était vraiment le magasin pour ce qu'il était comme lieu de passage avec qui brassait beaucoup de gens. C'était un lieu en fait très théâtral quoi. Donc j'avais envie de filmer ce lieu pour capter un peu son essence.
Faut bien dire que c'est un lieu improbable dans le quartier quand même. Enfin, qui est devenu de plus en plus improbable dans ce quartier.
Oui, ça a été un vrai repère pour beaucoup de gens dans le quartier. C'était un haut lieu de sociabilité. Et les gens, ils venaient pas forcément pour acheter une planche de bois ou des clous. Quoi. Ils venaient aussi pour prendre un café, pour discuter. Il y avait les amis de passage qui venaient parce que... Comme c'était ouvert de 9h à 19h tous les jours de la semaine. Enfin,
vous confirmez, Jean?
Tous les jours de
vous
l'année.
Vous écoutez votre
tout
fils,
fait,
là.
Oui, c'était oui. Un lieu, enfin voilà, on va dire plein de vie. Puis
il y a même des gens qui se donnaient rendez-vous là.
C'est
très
ce que
étonné.
J'allais dire. C'est ce que j'allais dire.
Je voyais des gens, quelqu'un, et je disais qu'est-ce que je peux vous aider? Enfin, vous voulez? Il me dit non, j'attends quelqu'un.
Comme et au puis, café, un peu. Comme...
Exactement.
Ouais.
Mais exactement. Et puis, la personne arrivait. Et puis, ils repartaient tous les deux. C'était juste le lieu de rendez-vous.
Avec un patron psychanalyste qui est vous, qui êtes plutôt un psychanalyste taiseux, hein, dans l'école des
taiseux. En général, les psychanalistes sont taiseux.
Ah, ça dépend, il y a des interventionnistes, mais vous non. Hein, vous,
taiseux, oui. Sans doute, psychanalyste, non, pas du tout.
Quand même, vous avez dû entendre pas mal de confessions, non?
Non, de l'ordre de l'intime, pas tellement. Mais
bien sûr que si, ce qui est beaucoup à toi. Enfin, moi, justement, c'était une des remarques que je te faisais. Je me demandais, mais comment, enfin, pourquoi ils se confient autant les gens? Tu sais énormément de choses sur eux, sur leur vie intime. Enfin, il y avait pas du tout. Il y avait plein d'anecdotes que tu savais de leur vie.
Oui, c'est vrai. Mais enfin, c'est pas de l'ordre de la psychanalyse quand même. Les confessions bon. Que je recueillais, c'est pas de cet ordre.
Bref. Cas, eux, ils savaient rien de vous, en tous les cas. Ouais. Je pense.
Non, ça c'est
clair. Ils auraient été étonnés.
Mais Samuel, en 2012, votre père Jean vous parle de son intention de vendre le magasin. Et c'est là où vous dites. Il y a peut-être un film.
C'est ça, je crois que ça a joué le rôle de catalyseur. C'est-à-dire tout d'un coup, je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait... D'abord, ça m'a renvoyé à tout le lien affectif que j'avais avec ce lieu, qui était que je connaissais depuis l'âge de 5 ans. C'était mon terrain de jeu quand j'étais enfant. C'est une espèce de grosse caisse à jouer, comme ça. Et donc, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais chercher de façon aussi insistante? Je filmais pendant des années de façon très sporadique, un peu anarchique, sans savoir, j'avais pas de fil rouge, je faisais juste confiance au temps, c'est la seule chose que je me disais. Mais bon, je prenais des images et c'est tout. Et là, il y a eu un basculement, en effet. Je pense que tout d'un coup, ça a basculé dans une dimension de faire ce film-là avec cette question en creux, mais qu'est-ce qui a amené cet homme, en l'occurrence mon père, à vendre des clous, quoi, à
Jean,
40 ans.
Jean, ce magasin, c'est vrai que c'est un peu une tour de Babel. José vient du Portugal, Mangala du Sri Lanka, Zora d'Algérie, Kwang est chinois d'origine. C'est important pour vous d'avoir ces différentes nationalités autour de vous. Ce sont des gens, vous n'allez pas nous le dire, mais que vous avez, dont certains, vous avez beaucoup aidé.
D'accord. Attendez. D'abord, juste un petit détail.
Ok, Jean. Okay.
Le magasin, je l'ai ouvert aussi avec un ami qui s'appelle Claude Agege.
Oui.
C'est un homonyme. Ça n'a rien à voir avec le linguiste.
Ah, d'accord.
Mais qui faisait lui aussi tout autre chose. Mm-hmm. Et donc à deux, c'était beaucoup plus léger, etc. Bon après, mais bon, il faut le citer quand même.
J'étais oui.
Vous le racontez dans le film. Oui.
Alors. Pour
les différentes nationalités que vous engagez.
L'internationale prolétarienne qui est les employés de votre magasin.
C'est plus prosaïque.
C'est pas un hasard. Oui.
C'est pas un hasard, mais c'est beaucoup plus trivial que ça. Je dirais, j'ai pas été chercher telle nationalité. C'est que tout simplement, c'est la réalité. Du marché du travail aujourd'hui, si vous cherchez des travailleurs manuels, on trouve des gens qui viennent de loin, qui ont vraiment besoin de travailler et c'est beaucoup plus difficile, surtout dans la ville centre. De trouver ils sont tous français, donc, mais disons des Français d'origine de France.
Samuel, votre père
plutôt que des Français d'origine étrangère.
Samuel, votre père les a aidés, ces gens-là, dont certains.
Les papiers.
Oui, les papiers.
Oui, c'est ce qui est dit dans le film. Oui,
Geneviève Fraisse,
c'est dit dans le film. On entend, c'est quand même de obtenir des papiers.
Bien sûr.
C'est tout, il n'y a rien à dire de plus.
Mais c'est vous qui l'avez choisi.
Georges Amat.
C'est vous qui l'avez choisi.
On est d'accord que ça soit normal.
Ça fait partie de la procédure. Et on embauche quelqu'un, et vous saviez bien, il y a carte de travail, carte de séjour, etc. Pour avoir la carte de séjour, il faut avoir un travail. Donc voilà, c'est naturel, quoi, si j'ose dire.
C'est logique.
Oui, voilà.
Des étrangers, il n'y a pas uniquement dans votre personnel, mais aussi dans les clients, comme ce client russe.
Ça, oui.
Alors, on l'écoute. Ah, d'accord.
Bonjour, attends, je peux pas encore venir.
Господин Егор.
Как дела? Нормально.
C'est un ancien soldat de l'armée rouge.
Monsieur Jean, tu m'as fait une petite facture pour ça?
Il est russe, c'est un russe.
Je ne suis pas tout à fait russe, je suis grec et russe. Ma mère, elle est russe.
On n'a pas les Grecs. C'est comme ça.
Et moi, je suis colonel. Et je salue. Comment tu dis,
René? Здравствуйте, товарищ подполковник.
Il a l'air jeune, mais il est vieux. C'est incroyable, c'est un vieux. Il était en Afghanistan. Il a fait la guerre en Afghanistan.
Et alors?
Il peut en raconter.
Tu sais pourquoi moi je suis jeune? Hein? Tu sais pourquoi les visages sont jaunes? Parce que quand tu tues les monde, tu prends la vie de l'autre.
Et alors c'est pour ça que tu as l'air jeune? Parce que tu as pris la vie des autres?
Ben, évidemment. Allez les gars!
Jean Bijaoui, vous écoutez ces gens, est-ce qu'ils vous manquent, ces clients? Parce que quand même, c'était une famille.
Un peu, oui. Oui, un peu. C'est-à-dire que la caractéristique de ce genre de magasin, c'est-à-dire que ce n'est pas un magasin de prêt-à-porter ou un café, c'est que ça ne trie absolument pas les gens qui viennent. Donc, c'est-à-dire que tout le monde vient. Vous savez, il y avait Madame la Présidente de la République qui était cliente du magasin, je veux dire Madame Mitterrand.
Oui.
Mais elle habitait à côté, à 300 mètres, de Bièvre. Mais elle venait alors qu'elle était encore...
Femme du président.
Elle était présidente.
Ouais.
Elle venait, elle achetait des clous.
Et il y avait aussi Catherine Deneuve.
Oui. Un jour, il y a Catherine Deneuve et Mastroianni qui ont débarqué dans le magasin. Il y avait plein de monde. Le silence s'est fait. Un silence absolu. C'était incroyable. Les gens n'osaient plus. Ils bougeaient plus. Plus personne ne bougeait. Tout le monde était tétanisé.
Elle est venue acheter quoi?
Des clous, des vis. Elle achète des choses comme ça. Elle aime bien bricoler. Elle sait ce qu'elle veut, quoi. Enfin, Madame Mitterrand aussi, elle veut acheter des vis. Enfin bon, et il y a ça, et il y a
le
sans-papier du coin, ouais. En passant par Pierre Soulages, en passant par des gens de la... Oui, Claude Lévi-Strauss.
Non.
Ah oui.
Vous l'avez parlé?
Bien sûr.
Vous avez parlé de
bien sûr, on lui a fabriqué sa bibliothèque dans son bureau au Collège de France. Voilà, toutes sortes de gens, jusqu'à le sans-papier du coin.
Qui venait pour recharger son portable.
Oui, enfin ça c'est les Roms, c'est aussi les Roms qui venaient. Oui, ouais. Il y avait une bande de Roms là qui venaient pour faire recharger leur portable. J'étais en très bon terme avec eux.
Et voilà, enfin,
il y avait toutes sortes de gens. Alors ça, et puis des gens très intéressants. Et ça me plaisait parce que j'ai rencontré des gens et ils me parlaient avec des parcours absolument phénoménaux.
Samuel, faut presque si couper la parole à votre père.
Talent, j'aurais fait des...
Oui, oui, oui.
C'est dingue,
oui,
alors qu'il parle beaucoup. Beaucoup moins dans le film.
Non,
hein.
Mais c'est...
Alors, donc, il y a cet homme derrière son comptoir, etc. Et puis, il y a un ami qui débarque, qui s'appelle Claude Evenot, et qui raconte un petit peu plus que le quincailler.
Julie, ça me fait rire de le voir toujours derrière un comptoir. C'est un mec qui a fait des études supérieures, qui a essayé de faire la révolution, qui a été quasiment un homme de main dans les groupuscules révolutionnaires, et puis qui a fait des films politiques, et puis qui fait qui se déguise en épicier, là, comme ça, marchand de bricolage, etc. En faisant ça sérieusement, mais personne ne peut deviner que c'est un dangereux subversif qui est derrière la caisse. Ça me fait rire. Voilà. De savoir, sans le dire, ça me fait rire.
Pourquoi vous levez les yeux au ciel, Jean Bijaoui? Il raconte pas n'importe
quoi. Tout ce qui est vrai.
Non, oui, bien sûr, mais vous savez, c'est ça, comment c'est perçu, comment ça sonne, quoi, et puis... voilà ce que...
Ça sonne comment? Ça sonne pas bien?
Si, mais ça sonne un peu trop flatteur. Voilà.
Parce que vous avez beaucoup de mal, Samuel, vous avez beaucoup de mal à faire parler votre père sur son passé activiste, entre guillemets. Mm-hmm. Il va falloir, vous, architecte, aller déambuler dans ce lieu et aller dans cette cave pour faire remonter ses confidences. On n'a pas choisi d'extrait là-dessus parce que c'est entre, mm-hmm. Il faut que les gens voient le film. Mais là où c'est beau, c'est que vous le filmez, du coup, de loin. Quand il raconte des choses de près, en fait. Mm-hmm. C'était un choix.
Oui, c'était un choix d'aller aussi, je pense au sous-sol et de faire remonter depuis ce sous-sol tout ce récit de vie, sachant qu'en plus c'est la première fois Enfin, tout ce qu'il me dit devant la caméra, c'est la première fois qu'il me le dit. On n'en avait jamais parlé avant. Donc, ça, c'est important. Enfin, c'est un documentaire, on va dire, de cinéma direct, quoi. Enfin, je prends tout ce que le réel me donne. Avec aussi bien donc la vie du magasin que ce que me dit Jean du coup et alors ça a été un choix de faire un mouvement comme ça de plonger, c'est-à-dire que je pose quand même 2-3 questions au début sur ce que représente pour lui le magasin et à ce moment-là on est encore à la surface, on est derrière le comptoir, donc je commence à gratter un petit peu qui est derrière la caisse, et puis petit à petit on descend dans l'antre comme il le dit et on creuse
et,
vraiment.
Et Georges et Geneviève, vous avez vu ce film, vous étiez donc tous les deux des vous Geneviève une ex de 68. Comment vous l'avez regardé cet homme là?
Il y a plusieurs choses. Il y a d'abord la proximité avec le maoïsme, où effectivement, moi, j'avais un côté groupie des maoïstes, et sans doute, c'était la meilleure place pour les filles affaire. Il faudrait rentrer dans... Mais vous savez, le fameux slogan que je préfère de 68, moi, c'est « Cours, petite sœur, les avant-gardes sont derrière toi ». C'est pas « Cours, camarade hein, », c'est « Cours, petite sœur, les avant-gardes sont derrière toi ». Donc, c'est la phrase qui m'est restée de cette période où ça me fait rire. Ce qui m'a touché beaucoup, et concerné, c'est le moment où vous dites que vous avez été très heureux, c'est quand vous étiez à la fois à la Sorbonne et dans le magasin. C'est-à-dire, ça renvoie pour moi à plusieurs choses de l'époque qui sont extrêmement importantes pour ceux qui l'ont vécu, je pense, et qui, moi, me restent encore. C'est théorie et pratique, c'est ce que j'appelle la rue et la bibliothèque. Et pour vous, c'est à la fois la pensée et cette pratique-là choisie dans ce magasin. Et vous dites en plus, donc moi, je suis touchée quand je vois ce passage parce que, évidemment, je me sens concernée, mais en plus, vous rajoutez, c'est ce moment-là que j'ai été le plus heureux.
Jean,
oui. Donc la question du bonheur, par rapport à cette dissociation et en même temps relation entre théorie et pratique, c'est étonnant. Enfin, c'est très proche de choses qui étaient importantes à ce moment-là, me semble-t-il.
Oui, enfin bon, je suis comme ça. Pour moi, c'était en effet très satisfaisant d'avoir comme
satisfaisant
ça.
Satisfaisant ou bonheur ? C'est pas le même mot.
Oui, enfin ça me remplit. Oui, enfin ça me. Non, c'est. Je dirais plutôt bonheur, c'est un peu.
Vous avez dit que vous aviez été heureux, c'est le mot dans le film.
Oui.
J'ai pas rêvé.
D'accord. d'accord. Non, mais c'est une question de. Je reconnais. Oui. J'étais heureux, j'étais satisfait, ça me convenait, quoi. Voilà, ça me convenait.
Mais moi, je pense que c'est très important qu'on ait eu ce double, ces deux
pieds. L'alliance du travailleur intellectuel et du travailleur manuel.
C'est ça. Très important.
Samuel Bijawi, vous avez exorcisé quelque chose en faisant ce film par rapport à votre père, justement. Est-ce que vous avez obtenu, finalement, est-ce que ça vous a rempli?
Oui, c'est sûr que je pense que, cette question, que je pose dans le film, qu'est-ce qui l'a amené comme ça à ouvrir cette boutique de bricolage? Derrière ça, il y a quand même comment on construit une vie. C'est cette question-là que je voulais poser. C'était aussi, mais il y avait plein d'autres choses. Il y avait aussi les rapports humains au travail. Il y avait donc. C'était pas moi. Je respecte aussi ces silences. Hein. Tiens à le dire. Quoi. Je respecte ces zones d'ombre. J'ai pas voulu tout raconter, tout expliquer. Donc ça apporte des éléments de réponse et c'est tout.
Et le reste est dans le film. Ça s'appelle le 68. Mon père et les clous. Et on va passer à autre chose maintenant.
On s'est retrouvé un jour dans un bistrot au Quartier Latin, en bas de la rue Gay-Lussac. Je sais pas s'il existe toujours. Il y avait Danny Cohn-Bendit, pas mal de gens. Et on était assis, il y avait Dany et de chaque côté Daniel Schulman et moi. Pareil, une photo et puis des journalistes qui interviewent, pareil, une photo en une de France Soir qui dit Dany et ses deux lieutenantes, donc en donnant nos noms, Dany les traite comme des garçons. Voilà. Donc voilà, on pouvait être que en dessous, alors qu'il y avait des filles brillantes, je veux dire. Enfin, on l'était toutes, d'ailleurs. Mais une fille comme Anne Guérien, par exemple, c'était une fille qui avait déjà travaillé sur le syndicalisme étudiant, mais aussi elle travaillait avec Guattari au Cerfi. Enfin bon, et puis nous aussi, on était brillantes, hein, dans notre genre.
Isabelle Saint-Saëns, une des femmes de Filles de Mai. Voilà, mai 68, une révolution racontée essentiellement par les hommes, comme si les femmes n'y avaient été que figurantes. On sait depuis que les femmes y ont joué un grand rôle. Ce film nous le confirme donc. Filles de Mai, l'initiative d'un homme, c'est vous, Georges Amat, qui est allé à la rencontre de ces héroïnes. Trop jeune, dites-vous, pour avoir été acteur en 68. D'abord, vous étiez à Prague et vous avez ensuite construit toute votre vie d'adulte à partir de là. Donc, à partir de quand vous êtes dit, non mais il faut que les femmes s'expriment?
Bah, à partir du début du film. C'est-à-dire que j'ai vécu Vincennes. C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivé en France, j'ai commencé mes études à Vincennes. Donc, je suis plongé dans le post-68. Et il y a eu le début du féminisme. J'étais toujours interloqué. Bon. Mais j'ai pas vécu 68. Donc, j'avais cette frustration de parler de 68. J'ai commencé à filmer des hommes et des femmes. Voilà. Et au fur et à mesure que j'ai filmé, je me suis rendu compte que les femmes étaient beaucoup plus intéressantes. Et elles m'ont poussé. Elles ont poussé les mecs petit à petit. À chaque fois qu'il y avait une femme intéressante, il y avait un mec qui sautait. Et ainsi de suite. Ça s'est fait comme ça. Ça s'est rempli comme une timeline qu'on met des petits dominos. Et voilà. Elles ont rempli le film. Et je me suis rendu compte.
Il y a que vous qui êtes resté. Comme homme.
Oui, voilà. Oui, oui. Mais moi, j'étais le témoin. Je suis habitué de, j'ai pas fait la résistance. Et pourtant, j'ai fait beaucoup de films sur la résistance. Je veux dire, le côté témoin, c'est oui. Parce que d'abord, j'apprends. Quand je fais un documentaire, c'est pour apprendre. Je fais pas un documentaire par des choses que je sais d'avance. Donc, pour ça, je dis, le film s'est construit à partir du discours de ces filles, parce que je les appelle des filles.
Ces femmes, moi je dis des femmes, ont à peu près entre 18 et 25 ans à l'époque. Elles viennent d'univers différents, dans une France, on va dire, conservatrice, machiste, témoignage.
Alors, qu'est-ce que nous sommes, nous, les filles d'avant mai? Alors, on est des gamines qui ont porté des chaussettes jusqu'en troisième, qui avions des jupes plissées et des culottes en coton qui grattaient, qui avons vécu le démarrage des règles dans un sentiment qui recoupe le même sentiment de honte et de dégradation, et non pas de promotion d'un corps qui s'épanouissait. Bien au contraire, tout ça était clandestin et secret.
Avant 68, je suis une petite étudiante classique à l'université de Rouen. Je suis en histoire. Je suis une étudiante sage. Je suis d'un milieu populaire. Ma fille m'a dit, ma mère, tu fais des études et tu ne tombes pas enceinte. Bon programme, c'était difficile à tenir parce que jusqu'en 68, il n'y avait pas la contraception.
Je suis arrivée à Nanterre en 66. Je venais d'avoir mon bac, je venais d'avoir 17 ans. J'ai découvert deux choses. Le bidonville qui jouxtait la faculté, qui était pour moi quand même, qui venait du 16e arrondissement, une grosse surprise. Je ne savais pas que ça existait en France. Et la guerre du Vietnam. Je suis rentrée immédiatement au comité Vietnam national, à son antenne nantairoise, et je suis rentrée à la JCR, la Jeunesse communiste révolutionnaire, à Pâques 67. Et j'ajoute qu'en étant à Nanterre, en philo, en l'avant 68, il aurait fallu avoir la vue très très basse pour ne pas s'intéresser à tout ce qui fermentait, bouillonnait dans la fac.
Henriette Asséo, Michel Collin, Sophie Boucher-Petersen parmi les 30 femmes, et vous, Geneviève Fraisse, 68 étudiantes en philo, comment vous avez vécu tout ça? Racontez.
Je change de vie, et j'y suis encore. J'ai changé de vie en mai 68.
Vous êtes comme elle, avec cette éducation-là, comme elle,
ben,
comme elle
l'a décrite. Même y compris pourtant dans un milieu professeur d'université, engagé politiquement, indépendance de l'Algérie, etc., etc. L'adolescence qui précède 68 est catastrophique. Et catastrophique, moi je me souviens surtout, c'était les fameuses surprises parties où nous étions, alors avec une robe, on avait fait des tenues, on avait, si possible, gonflé nos cheveux.
Avec le quart d'heure américain où les filles étaient autorisées.
Et pendant ce temps-là, dans ma tête, je me disais, il faut pas que je dise ce que je pense, parce qu'on peut pas penser et être une fille, quoi. Et alors, donc c'était, et 68 arrive, et tout d'un coup, et tout m'est donné. Et donc la question, donc, qu'on soulevait tout à l'heure sur le fait qu'il y a ces, effectivement, la réponse des féministes qui vont dire, cours petite sœur, les avant-gardes sont derrière toi, qui est la réponse postérieure à 68, à cours camarade, le vieux monde est derrière toi, qui est le slogan de 68, sur le moment même, je pense, et c'est ça que j'aime vraiment beaucoup dans le film de Georges Amat, parce que il a croisé l'histoire et la géographie. Il a croisé l'espace et le temps dans la construction de ce film. C'est vrai que les petits ruisseaux font des grandes rivières et on comprend que, à la suite de ça, ben, le féminisme va démarrer en 69, 70, 71 parce que...
Vous vous êtes senti affranchi?
Oui, et on était, en fait, pourquoi la question fille-garçon, je ne l'ai ressentie que en septembre, au moment des AG, où les garçons prennent le pouvoir, avec tous les groupuscules, qu'ils soient trotskistes, machin, etc. Ils vont prendre le pouvoir sur les estrades, et là, je me dis, il y a un truc qui va pas. Mais pendant 68, en fait, l'important, ce sont les lieux. Moi, je suis entre Sancy et la Sorbonne. De la Sorbonne, on est allé à l'Odéon. J'ai compris l'année dernière qu'en fait, j'étais le jour même de l'occupation de l'Odéon. Dans l'Odéon, mais parce qu'on traverse le boulevard Saint-Michel. Et puis, on va aussi à Flins ou à Boulogne. Donc, on est dans des lieux. Donc, la question, genrée, comme on dirait aujourd'hui, ne se pose pas. Oui, mais elle va se poser à la rentrée tout de suite pour moi. Et à la rentrée, je comprends qu'il y a deux mondes, quoi. Et les études de philo ne vont pas arranger les choses parce que je vais me retrouver en manque.
Mais est-ce qu'après coup, vous vous êtes rendu compte que les garçons, les hommes, vous ont volé 68 ou pas?
Mais non, mais écoutez, si ça fait 50 ans que j'écris sur la pensée féministe, parce que c'est à peu près ça, c'est parce que j'essaye de lutter contre ce vol. Donc bien sûr, on s'en rend compte. Et ce qui m'a, mais en même temps, j'ai, de l'intérieur de la question du féminisme, moi, ma première recherche va être sur les féministes de 1848, de la révolution de 1848. Pourquoi? Parce qu'il y a un quotidien pendant trois mois en 1848, les femmes, donc du 19e siècle, vont faire, souvent des ex-saint-simoniennes, vont faire un quotidien pendant. Et mon premier problème va être notre hymne qui dit nous qui sommes sans passé les femmes. Moi, je découvre tout de suite qu'il y a un passé, ce passé. Je me plonge dedans. Donc, et j'y suis encore. Mais en même temps, je me dis comment ça se fait qu'en 68, il n'y ait rien eu du côté du féminisme. Si ce n'est.
Et pas de slogan même.
Non, mais c'est extrêmement bien raconté. Si ce n'est effectivement à la Sorbonne, une rencontre, Anne Zelinsky et Jacqueline Feldman. Mais comme elles le disent elles-mêmes, c'est magnifiquement dit, ça ne fait pas mouvement. C'est une position féministe, mais dans un coin d'un escalier de la Sorbonne, puis dans un amphi. Donc, moi, j'ai eu une énigme. La question, ça a plutôt été l'énigme. Comment il n'y a pas eu de mouvement en 68 quand il y en avait un en 1848?
Vous parlez des lieux Nanterre. Nanterre, c'est un vrai lieu de 68. Il se passe quelque chose, c'est qu'on abolit la frontière entre le dortoir des filles et le dortoir des garçons. Oui. Il y a eu une grève l'an dernier à Nanterre, une grève longue, une grève dure sur le campus. Il y a une grève d'occupation. Il y a eu un dortoir de filles, un dortoir de garçons. Quelle est votre réaction par rapport à
Alors,
ça?
Alors, ma réaction, je vais la décaler. Je vais pas répondre à votre question, mais je vais la décaler. C'est-à-dire, on m'a tellement dit, moi, c'est ça qui m'a gêné. On nous a tellement dit, ah bah oui, la révolution, 68, les filles, c'est la révolution sexuelle. Alors, c'est bien ou c'est pas bien. Là, maintenant, tout le monde fait des mises au point.
Annette Lévy-Villard a dit, on a bien baisé et on s'est bien fait baiser.
Oui, mais tout ça est vrai. Non, mais moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est pas... Moi, je sors de l'indépendance de l'Algérie, la mobilisation contre la guerre au Vietnam, donc décolonisation, lutte contre l'impérialisme, c'est ça qui, pendant qu'on s'emmerde dans les surprises parties, on a d'une mobilisation politique. Moi, j'ai une formation politique très forte, antérieure à 68. Donc, j'en ai un peu assez qu'on ait renvoyé... Combien de fois je l'ai entendu? Ça m'a agacé ces dernières décennies. L'idée que c'était 68 pour les filles, c'était la révolution sexuelle. Oui, mais on était, et c'est bien dans le film montré, on était extrêmement politique, chacune à notre façon, les comités Vietnam de base n'étaient pas la même chose que le comité national, etc., etc. Oui. Mais on était extrêmement politisés et penseuses, et dans le film Merci Georges, c'est montré. Tandis qu'on nous balance depuis des décennies que c'est la question du sexe.
Oui.
Moi j'adore la question du sexe, et Annette a raison de dire qu'on a baisé et on s'est fait baiser. C'est vrai.
Oui, mais attendez, je vous interromps parce que pour cette réflexion prosaïque, peut-être, mais il y a eu du harcèlement aussi. Et ça, il n'y a qu'un seul témoignage de harcèlement, Georges Amat. On va l'écouter.
Je ne dis pas que je ne suis pas tombée amoureuse d'un certain nombre de garçons, mais j'ai quand même subi des harcèlements et là où c'était très très dur, parce que pouvoir dire non, c'était pour ainsi dire impossible. Soit il me harcelait, donc, et là il me posait problème, soit sinon ben moi j'avais envie de leur plaire, je veux dire voilà, donc c'était quand même une relation qui était pas très égalitaire, on va dire, tandis qu'avec les filles c'était quand même plus égalitaire. Et je sais que je m'en suis sortie, la seule façon dont j'ai réussi, c'était avec le grand Richard, qui était absolument terrible, je veux dire, je lui ai envoyé me chercher un croque-monsieur, et pendant qu'il allait me chercher le croque-monsieur, j'ai appelé mon père qui est venu me chercher.
La libération des femmes, ça a d'abord été la libération pour les mecs de coucher avec les femmes. Bon, libre accès au corps des femmes, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Libre accès au corps des femmes, bon. Mais il restait la vraie question, qui est cette histoire de la maîtrise par les femmes elles-mêmes, de quand elles veulent, si elles veulent, éventuellement comme elles veulent. Bon. Et ça, ça a été un combat. D'ailleurs, c'est un combat qui est toujours actuel. Hein.
Georges Amat, Geneviève Rézy, ça déporte la question, ça. Qu'est-ce que c'est quoi ?
C'est vrai que ça déporte par rapport à la politisation de mai 68, oui. Mais en même temps, ce qui m'intéresse moi dans ce film...
C'est pas sous-estimer les femmes que dire voilà. Ça.
Moi, ce qui m'intéresse dans ce film, c'est la femme, la fille. C'est le côté psychologique des gens. C'est pas la superstructure qu'ils étaient Mao, qu'ils étaient Troscar. Ça, personnellement, je l'ai vécu, on a vécu, on a tous été... Mais en échange... Moi, j'ai beaucoup découvert avec ce film, voilà. Parce que moi aussi, j'étais un mec, j'étais truc, il y avait une fille qui me plaisait, je faisais. Mais quand Talila, qui était une très belle femme, une chanteuse, dit, c'était difficile de rester vierge, fallait se faire dépuceler parce que il fallait. Moi, ça m'a choqué parce que j'imaginais pas que c'était comme ça. Je pensais que c'était l'inverse.
Geneviève Rézy, on sous-estime pas le discours, bien sûr.
C'est non, mais c'est pas seulement le discours.
Les pensées,
Non, mais c'est l'être fille. Moi, j'étais et je suis loin d'être la seule. Enfin, quand je dis je, j'ai envie de dire nous. J'étais avide. J'étais dans l'avidité. Et cette avidité, elle a pas cessé. Donc c'est pour ça que je parlais des lieux. On passait d'un truc à l'autre. Bon, moi j'avais un copain à l'époque fixe, alors peut-être que mais qui était pas étudié en philo, mais je veux dire, c'était pas que, mais je mets pas la politique contre le sexe. C'est plutôt qu'il se passait autre chose en 68, qui était que on changeait de vie. Moi, j'ai changé de vie. J'ai d'ailleurs à la rentrée pris une chambre de bonne pour être jeune fille au pair, pour être indépendante et vivre à Paris. Bon, grâce au ciel, j'ai réussi un concours, donc ça, tout ça, c'est rapidement arrangé. Mais l'idée, c'était que voilà, j'allais vivre autrement.
Quoi. Mais Jacqueline Feldman dit quand on abordait le sujet de la place des femmes dans la société, on entendait qu'il y avait des choses bien plus graves à régler. C'est
ben
vrai.
Oui, ben c'est pour ça que je ressors les slogans.
Voilà.
Mais on y est toujours. Ouais. C'est la question de la contradiction secondaire, c'est du Marx, c'est du mouvement ouvrier. On y est toujours sur cette question-là. Sur la question, d'ailleurs, Béatrice Lama, dans le film donc d'Edger Sharp, va être projeté aujourd'hui, montre bien qu'elle a pensé cette question-là du mouvement ouvrier, qui était une des actrices, non pas du film, mais de la pensée féministe des années 70. On voit bien que la question du mouvement ouvrier, du mouvement féministe, est structurellement, depuis Sylvain Maréchal, depuis la fin de la Révolution française, une contradiction. C'est pas nouveau.
Oui, Jean-Jacques, il y a assez peu d'archives, finalement, de femmes.
Ben, de femmes, il y en a très peu.
Et c'est ça.
Très peu. Alors, j'en ai trouvé aux États-Unis.
Oui.
Mais, c'est très difficile.
Aux États-Unis d'archives françaises, de femmes de la Révolution
française. De femmes de la, de mai 68, j'en ai trouvé plus aux États-Unis
incroyable.
Qu'en France. Et il y a un problème, qui est aussi, ben, parce que, alors, est-ce que c'était la timidité? Est-ce que c'était, mais en même temps, c'était très viril, il le dit, Jacqueline Feldman. C'est-à-dire qu'il y a, voilà, il y avait une, comme un mur, cette virilité, cette action, la violence, le chose. Et d'ailleurs, c'est ce qui restait de mai 68. Et pour ça, je suis un peu content d'avoir fait ce film, c'est de montrer une autre facette. Les femmes dans mai 68, qui sont quand même 50%
De la mobilisation.
De la mobilisation.
Mmh. Jean Bijaoui, vous avez vu le film, j'imagine, vous étiez acteur à cette époque-là de
cette oui.
Alors?
Oui. Ah ben c'est très intéressant, enfin c'est passionnant même. Je partage absolument
ce que dit Geneviève Rézy.
Absolument. Je comprends. Enfin, si ça peut se comprendre, mais la place prise dans le dans les commentaires par cette question-là est tout à fait disproportionnée. Et subjectivement, j'étais exactement dans le même état d'esprit.
Dans l'avidité.
Absolument, oui. que tu décris, et je pense que la plupart des gens c'était comme ça. La question. Moi, j'appartenais. Je peux apporter mon témoignage.
Oui.
J'appartenais à des groupes maoïstes. Et la question, les femmes étaient extrêmement maltraitées, carrément.
Dans ce milieu-là, dans ces groupes-là.
Je pense particulièrement. Mais peut-être que
chez les trotskistes.
Mais peut-être chez les autres aussi. Mais enfin bon, donc comme je connais que ce magasin-là, je parle de ce magasin-là. Et les femmes étaient maltraitées très brutalement. Voilà. Alors aussi d'ailleurs à propos, et en effet, les choses ont sans doute
pas tellement changé, si ce n'est que ça se dit plus facilement. Mais, et d'ailleurs, enfin, si vous permettez une parenthèse, dans le film de Samuel, là, et bon, il y a des gens qui lui ont reproché de pas parler assez de sa mère et que moi je profite d'être ici pour la saluer parce que comme chacun sait, ce sont les mères qui font les pères et que donc si je suis père, c'est
un message qui apparaît à la fin du film. On a bien envie d'en savoir beaucoup plus sur elle.
Voilà. Et pour conclure, tenez à la saluer.
Oui.
Nous aussi.
Ouais, et pour conclure, Georges Amat, vous dites que vous avez rencontré peu d'hommes. Est-ce qu'ils réagissaient un peu là-dessus, justement sur le rôle des femmes?
Alors, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Une anecdote très sympathique qui s'est passée il y a deux jours, il y avait une quinzaine ou vingtaine de spectateurs, et après on fait un débat, on demande, et il y avait un homme qui prend la parole, visiblement un ex de 68, un excité avec les cheveux longs, une mèche comme ça, les yeux un peu exorbités, qui dit « Oh, c'était génial, c'était le bordel, on baisait, c'était dément !» Et à ce moment-là, il y a 20 ou 10 filles qui sautent sur lui, « Ferme-la, c'est justement ce pourquoi on a fait ce film, t'as rien compris !»
Ça s'appelle « Fille de mère », Georges Amat, avec une de ces femmes qui est Geneviève Fraisse. Merci d'être là et de rester avec nous, Samuel et Jean Bijaoui. Aussi, on va écouter Clara Luciani, puis après on rendra un petit hommage à Anémone et on parlera des sorties de la semaine. Parle. D'ailleurs, elle avait son franc-parler.
Elle parlait aussi, oui,
et un grand caractère. Anémone est partie cette semaine, engagée notamment sur l'environnement, écœurée par le fric de ce métier. Elle portait un regard très critique sur le milieu du cinéma. Donc Anémone, début au Splendide, Thérèse du Père Noël est une ordure, années 80 très populaire, Ma femme s'appelle Reviens, Pour Sambrick t'as plus rien, Le quart d'heure américain, Le mariage du siècle. Et à partir de 85, des rôles plus sérieux, entre guillemets, Le grand chemin qui lui a valu le César de la meilleure actrice, Le petit prince a dit très joli film de Christine Pascal et Péril en la demeure de Michel Deville. Extrait.
Vous avez remarqué, je suppose, combien le sexe des blondes est différent de celui des brunes. Ça n'a rien à voir. Dieu, on ne voit rien chez les brunes. Moi qui suis brune, ça vous l'avez remarqué, j'espère. On ne voit rien. Tout y est caché, enfoui dans la touffe très épaisse des poils. C'est très mystérieux un sexe de brune. Et par suite très excitant, non? Si. Chez les blondes, vous voulez que je rappelle la serveuse? On voit réellement le sexe. Le duvet d'une blonde est si léger, si fin, c'est transparent. Donc plus impudique, non?
Si.
Non. Car plus innocent. Ça rappelle le sexe des petites filles.
Et le sexe des rousses.
Je n'en ai jamais vu, je suis jeune encore.
Moi aussi.
Oh, ma canne. Ah, voilà. Je dois rentrer.
C'était Anémone qui restait Anémone, même dans un film de Michel Deville. Les sorties de cette semaine, Laurent, on va commencer par Nous finirons ensemble de Guillaume Canet. La suite, 10 ans plus tard, des petits mouchoirs, gros carton. L'histoire de ses copains en vacances pendant que leur ami clame à l'hôpital, bref. Élégie de l'égoïsme contemporain. Alors, cette suite autour de Max. Max est reparti dans sa maison au bord de la mer pour se ressourcer. C'est François Cluzet, sa bande de copains, qu'il n'a pas vu depuis trois ans, débarque par surprise pour lui fêter son anniversaire. Max a honte, il n'a plus d'argent et n'ose pas l'avouer à ses copains. L'argent, la réussite sociale, le nerf de la guerre de cette histoire. Si encore Canet pouvait s'en moquer, mais même pas. Pas de dérision, juste une succession de sketchs, de scénettes. Même pas drôle, malgré ce gros casting. Portrait de groupe sans enjeu, comme c'est triste.
Oui, c'est très triste. Vous savez, le petit mouchoir 1, si je puis dire, vous l'avez rappelé, c'était une belle bande de salauds qui laissaient leurs copains mourir à l'hôpital. Oui, oui. Là, maintenant, c'est une belle bande de gentils qui se dépêchent de secourir le fils de l'une d'entre eux qui est en train de se noyer. Je me demande si je préfère pas les salauds aux gentils. Parce qu'en termes de cinéma, il y a quand même plus de choses à dire. Mais alors, l'essentiel demeure, hein, les grosses voitures sont là, les belles maisons en bord de mer. Cette fois, on a vraiment la maison en bord de mer. C'était un peu plus cheap dans le précédent.
Première
et un peu plus haut de la mer. Oui, mais là franchement, c'est bien. C'est beaucoup mieux. Et puis, quand même, qui joue encore, à part dans les films de Guillaume Canet, au jeu, vous savez, où on se colle un post-it sur la tronche et on demande, il y a marqué Hitler et il faut deviner que l'autre est Hitler. Enfin, je sais pas. Il y a chez lui qu'on voit encore ça. Le seul problème, c'est qu'il y a un adage très populaire qui dit jamais 203.
Dieu existe, son nom est Petrunia, de la réalisatrice macédonienne Teona Struga Mitevska. À Stip, petite ville de Macédoine, tous les ans au mois de janvier, le prêtre de la paroisse lance une croix de bois dans la rivière et des centaines d'hommes plongent pour l'attraper. Bonheur et prospérité sont assurés pour ceux qui y parviennent. Ce jour-là, Petrunia se jette à l'eau sur un coup de tête et s'empare de la croix avant tout le monde. Ses concurrents sont furieux qu'une femme ait participé à ce rituel, Laurent.
C'est merveilleux le cinéma en France, la distribution du cinéma en France, c'est plein de films. Vous rendez compte, un film macédonien réalisé par une femme, c'est un truc dont on met nulle part ailleurs dans le monde, on voit ça, donc ça c'est vraiment s'en réjouir. C'est son 5e long métrage, c'est la première fois qu'on en voit un enfin en France, je dis enfin parce que c'est effectivement à la fois absolument tragique cette histoire vraie et absolument réjouissant la façon dont l'histoire est traitée, c'est réjouissant. On voit tous les mecs sont abominables, le peuple, le commissaire, les petits voyous locaux, et il y a cette espèce de figure christique au milieu, cette femme qui résiste à tout ça, qui essaye de résister à tout ça. C'est un très très beau portrait de femme.
Dieu existe, son nom est Petrunia.
Oui.
Coming Out, ce serait peut-être bien ça, le premier vrai film issu d'images du net, récolté par Denis Parot sur les 1200 vidéos sur les réseaux sociaux qu'il a visionnées sur le coming out, le moment de basculement intime, dire au sien, à sa famille que l'on est gay. Il en extrait ceux qui sillonnent ce film d'1h03, sélectionner, monter, thématiser et chapitrer son propos. Des archives contemporaines dont certaines absolument bouleversantes, comme ce jeune Anglais sauvé par sa famille après moult tentatives de suicide, ou ce jeune musicien russe traumatisé dans un pays où être gay est un crime. Une phrase revient souvent dans la bouche des parents, être gay c'est un choix, un propos qu'ils doivent tous combattre. Une mère tente, on ne sait jamais, à sa fille tu aimeras peut-être un garçon un jour. C'est d'ailleurs souvent à la mère qu'il se confie en premier, et souvent face caméra. Pourquoi ces jeunes publient-ils ces vidéos? Sans doute pour dire, je l'ai fait, tu peux le faire aussi, ou pour ne plus être seul, isolé, ou conspué parfois. En 2019, les relations homosexuelles sont toujours punies d'emprisonnement dans 72 pays et dans 8 pays condamnés par la peine de mort. Coming Out, j'ai pas l'habitude de le dire, est un film indispensable et pour tous les publics. Laurent, on va parler d'un temps de Aliste de Radu Muntean. Il est roumain. En pleine crise d'adolescence, Alice souhaite profiter de la vie comme elle l'entend aux grandes dames de Bogdana, sa mère adoptive. Lors d'une dispute, celle-ci découvre qu'Alice est enceinte.
Oui, alors c'est pas le cinéaste favori de la nouvelle vague roumaine, honnêtement, hein, mais bon, ça reste un cinéaste roumain, avec tout ce que ça veut dire dans cette façon incroyable de filmer le réel. Lui, il a les défauts de ses qualités, c'est la roublardise qu'on voit apparaître, et je n'en dirai pas plus à la fin du film, je ne dévoile rien, mais cette roublardise, elle est quand même à l'action, et en revanche, effectivement, il y a une sorte d'observation amusée, distanciée, jamais méprisante, des hauts et des bas de la vie quotidienne de cette jeune fille, et pour ça, le film est très réussi.
On va passer très vite sur Cœurs ennemis de James Caan, qui est vraiment, pourtant, un sujet passionnant, Allemagne voilà. Zéro, plongé dans le miel du mélo.
Oui.
Une reprise, Novecento, Bertolucci.
Ça, c'est autre chose. Bah oui, hein, 1900 en français, Bertolucci, Depardieu, De Niro, Sandrelli, Dominique Sanda, s'il vous plaît, dans cette fresque à la fois historique et intime, c'est un pur chef-d'œuvre.
Et toujours à l'affiche, 90s de Jonah Hill, merveilleux récit d'apprentissage dans le Los Angeles des années 90. Je l'ai revu au MK2 Bibliothèque dans une salle pleine où j'ai senti, c'est très rare, cette fusion vers l'écran d'ailleurs, quand les lumières se sont rallumées à la fin, l'essentiel des spectateurs est resté. Allez-y, 90s de Jonah Hill. On passe maintenant au cadeau, Laurent.
Oui, quatre cadeaux, quatre nouveautés qui sont autant de chaudes recommandations pour nos auditeurs, évidemment. Alors d'abord, à Geneviève Fraisse, nous lui offrons Trois femmes de Robert Altman, un film de 1977 qui paraît le 8 mai, on est un petit peu en avance, chez Wildside. C'est un incroyable portrait de trois femmes américaines vues par un Altman qui oscille entre Bergman et David Lynch. Très beau coffret en plus.
Vous l'avez vu ce... Attends, on a le temps, Laurent. Vous l'avez vu ce film ?
Je me souviens pas, non, je crois pas.
Bon, voyez-le, revoyez-le. À Georges Amat, dont la conscience politique est évidente, eh bien, nous sommes heureux d'offrir Pier Paolo Pasolini, Entretien 1949-1975, une série d'entretiens inédits.
Il se lève, du coup, c'est drôle.
Delga, il se lève comme à la cérémonie de récompense. Vous avez le premier prix, Georges Amat, c'est bien. Pour vous, Jean Bigiaoui, on va vous offrir un peu malicieusement la Palme d'Or 2018. Ça s'appelle Une affaire de famille. Ouais. Vous verrez, il y a à la tête Corrida. De cette famille un peu quelqu'un qui est comme vous, c'est-à-dire quelqu'un qui est à la tête d'un petit Babel local. C'est un très beau film de Kore-eda, le japonais, qui a obtenu la Palme d'Or donc à Cannes l'an dernier. On verra la Palme d'Or cette année, ce que ce sera. Et puis pour vous, Samuel Bigiaoui, eh bien un collègue documentariste a fait l'an dernier un film qui s'appelle L'île au trésor, Guillaume Braque. Merveilleux portrait de cet endroit improbable qui est un centre de loisirs en région parisienne où il décrit toute une communauté. Voilà, c'est chez Potemkin. J'ai oublié de dire que la Palme d'Or est chez Le Pacte comme maison d'édition. Voilà.
Merci Laurent.
Merci beaucoup. Merci 68, vous. Mon père et les clous. Tiens, une projection ce soir au Reflet Médicis à 19h50. C'est à Paris avec un débat après. Merci donc, c'est sorti mercredi. L'autre film, c'est Fille de mai de Georges Amat, qui est sorti également mercredi.
Au Saint-André-des-Arts à Paris.
Merci Geneviève Fraisse de nous avoir fait l'honneur de votre présence et de vos commentaires.
Allez voir ces deux documentaires, s'il vous plaît.
Et nous vous livrons maintenant les clés du générique à samedi prochain.
C'est une émission inspirée par tous les films de cinéma.
Il y a des réalisateurs et des acteurs.
Il y a aussi des scénaristes et des chefs opérateurs.
Les prises de vue sont des prises de son.
Sporto Cantès a écrit la musique du générique.
Les morceaux étaient choisis par Muriel Pérez.
Hugo Combe s'est occupé de la préparation.
C'est une émission réalisée par Céline Hilla.
Elle est produite et présentée par Christine Masson et Laurent Delmas.
Et moi,
Geneviève Fraisse, j'y étais.
Et moi, Georges Amat, j'y étais.
Et moi, Samuel Bigiaoui, j'y étais.
Et moi, Jean Bigiaoui, j'y étais.
Merci Charles Pélabon d'avoir été aux manettes aujourd'hui. Dans quelques minutes, vous serez sur les épaules de Darwin. Mais pour l'instant, il est 11h sur France Inter.